J'ai pensé aussi qu'on pourrait poursuivre avec, oh, on ne voit pas très bien, comme prière d'introduction au message, on va parler de notre témoignage dans la ville, notre présence en tant qu'enfant de Dieu dans notre communauté. Et je pense que cette prière que Jésus nous a apprise correspond bien à ce dont nous avons besoin. Je vais la lire. Et vous pouvez prier silencieusement avec moi. S'il y en a qui veulent prier à voix haute avec moi, les paroles sont ici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Oui, béni sois-tu, Seigneur. Et mon message d'aujourd'hui s'intitule « Pas deux ans, mais 70 ans ». En fait, on va parler de d'une. Je vais expliquer pourquoi j'ai mis ce drôle de titre. Ça va devenir clair tantôt. Établir nos racines, nous dit le sous-titre. Établir nos racines pour un témoignage crédible. On va parler de notre témoignage dans la ville. Et cette semaine, on a eu du fun et on a été bénis par le Seigneur. Il y a eu notre pique-nique qui était plus entre nous, mais quand même, qui a été béni par Dieu dimanche passé. Il y a eu Essor, 4 soirées de sortie menées par Tim et d'autres jeunes. Carole était là, Myriam était là. J'ai vu Bill, le jeune Bill. J'ai vu plusieurs quand je suis allé. J'ai vu Ryan. J'oublie sans doute du monde, mais... Donc, des soirées où on combinait prière, louange, enseignement et aussi aller vers les gens, leur demander comment ils vont, puis est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi, puis est-ce qu'on aimerait te parler de pourquoi on est ici. C'était vraiment de belles soirées. Et puis, il y a eu le tournoi de soccer hier où on crée des liens en faisant le bien dans le quartier de Cloverdale, où plusieurs sont habitants. Avant d'en arriver au texte qui a inspiré ce titre, le texte qui est dans Jérémie, chapitre 29, on va le lire tantôt, mais d'abord, un petit texte intéressant qui montre comment les premiers chrétiens expliquaient aux Romains, comment ils voyaient leur religion. Parce que le christianisme est apparu dans l'Empire romain comme quelque chose de nouveau et de bizarre. Ça inquiétait les gens. C'est quoi cette nouvelle secte? En fait, c'est ça que les Romains disaient. C'est quoi cette nouvelle secte religieuse? Et vers 180 après Jésus-Christ, il y a un pasteur qui a écrit une lettre à un ami romain qui lui posait des questions sur sa religion. Et il dit des choses intéressantes. Alors, voici un petit extrait de la lettre à son ami Diognète, ce pasteur ou cet auteur chrétien. Il a écrit ceci. Je ne sais pas si vous vous identifiez à ça. Il dit « Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. » C'est-à-dire, les chrétiens ne demandent pas leur propre pays. Les chrétiens ne demandent pas qu'on s'habille d'une manière chrétienne différente des autres. Ils n'ont pas leur propre langue. Ils se conforment aux usages locaux pour la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires de leur république céleste. Intéressant. Donc, c'est quelque chose d'invisible qui les distingue. Ce n'est pas ces autres choses comme le vêtement, le langage ou des zones chrétiennes où on va vivre. Non. Ils sont mélangés dans la population. Et il ajoute ceci, « Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. » C'est un peu poétique, je vous invite à réfléchir là-dessus. « Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie une terre étrangère. » Ce matin, mon thème tourne autour de notre témoignage pour Christ à travers les racines que nous établissons dans la ville ou dans la communauté où Dieu nous a plantés. Et nous, on est plantés, pour la plupart d'entre nous, dans l'ouest de Montréal. Et beaucoup d'entre nous, on est à Amabé. Enfin, moi, je ne le suis pas. Moi, je suis à Dorval. Mais quand même, j'ai beaucoup de racines ici à Amabé parce que je vis beaucoup de ma vie ici en tant que membre à l'Oasis et pasteur aussi. On a entendu un beau témoignage tantôt de Marie-Jeanne et j'ai eu un autre témoignage de Roxane cette semaine. Donc, vous savez que Roxane et Elva ont déménagé à Québec. Et oui, c'est plate pour nous. Mais eux sentaient vraiment que Dieu a ouvert une porte pour eux. Leur déménagement à Québec a bien été. Et c'est Nadine avec son camion qui les a aidés. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Nadine? Non? Nadine, c'est quelqu'un qui, je pense qu'elle habite à Cloverdale, mais elle a un camion de déménagement et elle a comme un genre de ministère business pour aider les gens dans le déménagement de leurs meubles. Et nous, grâce à notre ministère d'entraide, on a un partenariat avec Nadine de longue date. Et donc, quand Roxane et Elva devaient déménager, ils ont fait appel à Eladen. Ils ont fait appel à Nadine et Nadine a assuré ce déménagement avec son camion. Donc, c'est quand même un témoignage de... Quand on s'enracine quelque part, il y a des bienfaits, il y a des partenariats qui sont fructueux. Nadine est encore là avec nous. Roxane, pour sa part, il a un nouveau travail comme garde de surveillance dans un foyer de protection de la jeunesse avec la DPJ. Et ça, c'est des enfants en difficulté pour plusieurs raisons. Ils habitent dans ce foyer. Et c'était beau pour moi de l'entendre parler du fait que, même s'il est un garde de sécurité, c'est pas un intervenant social, mais il se voit comme faisant partie de l'équipe pour aider ces jeunes-là. J'ai senti son cœur de compassion et ça m'a fait penser. C'est vrai que à l'Oasis, on dit qu'un de nos buts dans notre mission, répandre la justice et la compassion de Christ. Et ça m'a réjoui d'entendre ça dans comment il était heureux d'avoir son nouveau travail comme garde. Roxane, c'était un policier à Port-au-Prince. Je ne sais pas s'il y a une job plus dangereuse que d'être policier à Port-au-Prince. Fait qu'il est vraiment dans la sécurité ici au Québec et là avec la DPJ. Mais j'ai aimé sa vision. Puis j'aimerais vous parler d'une autre chose qu'il m'a dit. Et j'y ai demandé la permission de raconter. Il m'a dit, si tu penses que ça peut aider les gens, j'ai dit, oui, je pense. Il m'a parlé que... il travaille pour une compagnie de sécurité ici à Montréal. Il a démissionné. Il a fait sa dernière nuit de surveillance. Je ne sais pas où. C'était peut-être dans une université ou en tout cas. Et il a été contacté par son ex-patron le lendemain matin. Donc, ex-patron, parce qu'il avait démissionné, il avait fait sa dernière nuit, et le patron lui a dit, « Roxane, je veux te dire que merci pour ton bon travail, et je dois dire que j'ai pris la peine ce matin de regarder toutes les vidéos, les enregistrements vidéo dans le bâtiment où tu travaillais, et normalement, la plupart du temps, quand un employé, quand un garde termine son travail, il coupe les coins la dernière nuit. toi, tu as fait toutes tes rondes, j'ai vu ça, tu as fait toutes tes rondes exigées jusqu'à la dernière nuit, même si tu t'en allais vers une autre job. Et il dit, si jamais tu veux revenir dans notre compagnie, tu es assuré de ma recommandation. Et donc, moi, ça m'a frappé, malgré cette tentation d'être expéditif, d'être, tu sais, couper les coins, Roxane qui travaille sous le regard de Dieu. En fait, il travaillait sous le regard de son boss, mais il ne le savait pas. Et il a choisi de continuer à aller en profondeur, à être consciencieux, à planter des racines solides et profondes à Montréal jusqu'à la fin. Et c'est un peu de ça que notre texte va nous parler aujourd'hui. Le résumé de ce que moi je veux vous transmettre ce matin, c'est que le Seigneur t'a sauvé pour faire de toi un exilé temporaire dans ce monde. Donc, il te demande non pas de t'attacher aux choses de ce monde, non, mais quand même d'investir dans un exil à long terme. Donc, pas 2 ans, mais 70 ans se réfère à ton exil dans ce monde. Tu es juste un visiteur sur cette terre, mais tu es un visiteur à long terme. Et donc, il y a une manière de l'approcher. Et notre texte de ce matin, c'est le prophète Jérémie qui nous le donne. Jérémie, chapitre 29, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner au verset 4 dans Jérémie, chapitre 9. Ça va aussi être à l'écran. Et donc, ça se passe en 586 avant Jésus-Christ. Dieu a décidé qu'il va châtier, il va corriger, punir le peuple d'Israël d'une manière très dure à cause de son infidélité chronique, son idolâtrie, son refus de vraiment donner son cœur au Dieu qui l'a sauvé. Et il dit, je vais envoyer les Babyloniens pour conquérir ce qui restait d'Israël, c'est le royaume de Juda, le royaume du sud. Et il a envoyé environ 3000 personnes qui ont été déportées de force et qui vont devenir des exilés, des réfugiés dans des régions à Babylone. Il y avait sûrement des camps de réfugiés dans ces endroits à Babylone pour ces 3000 et quelques Judéens déportés. C'était un moment terrible et Jérémie avait prédit que ça arriverait. Mais Jérémie avait prédit que Dieu allait utiliser cet exil pour purifier la spiritualité d'Israël, qu'il allait utiliser les exilés et les souffrances, les difficultés qu'ils vont vivre, la nouvelle vie qu'ils doivent construire pour purifier leur religion, leur relation avec Dieu. Et son message n'était pas populaire. Alors, il y avait d'autres prophètes qui disaient, « Mais non, on a le temple. On a le temple, ça c'est notre protection tout risque. Dieu ne va jamais permettre qu'on se fasse envahir par qui que ce soit. On a le temple. » Et Jérémie a dit non. C'est une fausse confiance. Dieu a décidé de vous purifier d'une manière difficile. Lisons le texte. Oui, je sais, Troy, tu nous as lu ce texte à Essor, mais je te remercie parce que j'étais déjà en train de travailler dessus et j'ai pris quelques-unes de tes idées et je les ai mises dans mon message. Mais regardez comment Jérémie écrit. Lui, il est encore à Jérusalem. Il écrit aux 3000, aux leaders, et voici ce qui est écrit dans sa lettre. Il dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils. Donnez des maris à vos filles et qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être. Ben, le mot hébreu, c'est rechercher le shalom, la paix. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien, c'est-à-dire au bien-être de la ville, la nouvelle ville. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, les faux prophètes, les prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. En fait, ils étaient en train de leur dire, Babylone va tomber, vous allez retourner d'ici 2 ans, vous allez être de retour dans vos belles maisons à Jérusalem. Ne les écoutez pas, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici, à Jérusalem, là où était leur cœur, leur patrie. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Quel beau texte. Et ce verset que beaucoup aiment, je connais mes projets pour vous, c'est des projets de bonheur. On voit le contexte, que c'est un contexte de peine, de souffrance, de deuil, où est-ce qu'ils sont déportés de force. Et pas pour 2 ans. Alors, 2 sortes de prédicateurs. On dirait que même aujourd'hui, même avec l'Évangile, il peut y avoir 2 sortes de prédicateurs. Et je prie que moi, je suis dans la bonne sorte. Mais il y a des prédicateurs, même à cette époque-là, comme j'ai dit, pour être populaire et pour flatter le peuple désobéissant dans le sens du poil, qui leur dit, ben, votre souffrance, c'est juste, c'est de courte durée, vous avez un Dieu qui ne va pas vous laisser souffrir. D'ici 2 ans, vous allez être de retour dans vos maisons. Ben, parce qu'en fait, il y a eu deux attaques des Babyloniens. La première, c'était juste, ils ont fait tomber le roi, ils ont déporté du monde, mais il y a eu une deuxième rébellion de Juda après, parce qu'ils écoutaient les faux prophètes. Ils ont dit, on va les battre, les Babyloniens. Et puis, les Babyloniens sont revenus, ils ont détruit tout. Ils ont massacré du monde. C'était terrible. Ils ont mis le temple à terre. Mais on n'est pas rendu là encore. On est rendu après la première invasion. Et il y a ces faux prophètes qui promettent la facilité, qui promettent les solutions rapides. Et soyons quand même prudents. Il y a des prédicateurs chrétiens, même aujourd'hui, qui vont dire, « Venez dans mon église. » J'espère que l'Oasis ne fait jamais ça. « Viens dans mon église parce que si tu m'écoutes et tu fais ce que je dis, tu vas devenir un Canadien riche avec une grosse maison et des enfants brillants et qui vont avoir des belles carrières et ainsi de suite. » Ce n'est pas ça l'Évangile, quand on regarde attentivement. Dieu a des projets de bonheur pour nous, mais ça se passe autrement. Ça se passe autrement et c'est plutôt Jérémie qui nous donne le modèle. Il vous dit, vous êtes dans un exil pas de 2 ans, mais de 70 ans. Alors, certains d'entre vous sont dans des situations comparables. Vous êtes ici à Cloverdale ou à Montréal parce que vous avez été forcé par les circonstances, que ce soit économique dans votre pays ou de la violence ou du danger. Mais selon toi, puis là, je ne sais pas si quelqu'un veut essayer de répondre, si je vous dis, bien, votre exil, votre absence forcée au Canada ou à Cloverdale, ça va pas être juste de 2 ans, ça va être de 70 ans. Quelle différence est-ce que ça fait? 2 ans puis 70 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire comme pensée, comme différence? Pas 2 ans, mais 70 ans. Faire des plans à plus long terme. Oui. Oui.
Investir.
Ça veut dire que peut-être moi, je ne pourrais pas retourner, je vais être trop vieux. C'est bien dit, mais oui, il faut faire un petit calcul, un petit calcul. 70 ans, je ne dirais pas ton âge. Mais même si Benoît avait 25 ans et tu aurais 95 ans quand Dieu donne le signal pour retourner là où est-ce que mon cœur est pour le moment. Le bébé qui vient de naître, peut-être qu'il y a une maman qui est partie à Babylone avec un bébé dans les bras, va avoir 70 ans ou 71 ans quand Dieu donne le signal de retourner. Et ils peuvent être enterrés en exil, exactement. Oui, absolument. Et donc, la vision, la façon humaine de voir ça, il y a plusieurs situations comme ça. Le mur de Berlin, il a duré de 1945 à peu près jusqu'à 1989. Alors, c'est combien d'années? C'est plusieurs décennies. Oui, donc oui, effectivement. Alors, ça, c'est une analogie pour nous parler à nous de notre vie chrétienne dans le monde où on est. Oui, vas-y. Oui. Oui, la séparation physique de nos bien-aimés, il y a des... Oui, c'était pas tout le monde qui a été déporté. 70 ans de séparation, on veut pas penser à ça. On veut pas imaginer ce genre de choses. En tout cas, les Judéens ne voulaient pas. Et voici le verset que Troy nous a lu cette semaine concernant la ville de Montréal et concernant notre rôle de chrétien dans la ville de Montréal. Parce qu'en fait, les apôtres nous ont dit, nous qui avons reçu Christ, voyez vos vies comme un exil. Un exil, toute votre vie sur la terre, vous êtes des exilés, des résidents temporaire dans le monde. Et donc, on peut s'inspirer de ce que Jérémie a dit aux Judéens à Babylone par rapport à notre rôle dans notre vie chrétienne, dans notre témoignage, dans la ville où on est. C'est le verset peut-être central. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Donc, il y a deux commandements ici. Recherchez le bien-être de la ville, où je vous ai exilé, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Donc, recherchez le bien-être activement. Aidez pour rendre meilleure la vie de tout le monde dans la ville où vous êtes. Deuxièmement, intercédez pour la ville. Le Conseil des anciens a fait un petit projet spécial cet hiver. Je ne vous dirai pas tous les détails de comment c'est arrivé, mais c'est qu'il y a un nouveau projet de loi du gouvernement québécois pour renforcer encore plus la laïcité dans les écoles. Le REC, le Réseau des évangéliques du Québec, a communiqué aux églises en disant « Lisez le projet de loi, c'est très strict. Ça pourrait causer des gros problèmes pour les églises et pour les chrétiens qui travaillent dans les écoles à l'avenir. Lisez le projet de loi et puisque le gouvernement invite les citoyens à écrire, on invite les églises à écrire. » Alors, le conseil, on a écrit un petit mémoire qu'on a envoyé la semaine dernière à l'Assemblée nationale. J'essaierai de le... Enfin, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous enverrai le texte. Mais l'idée, c'est qu'il y a deux attitudes. On peut dire, bon, je suis sauvé pour le royaume de Dieu. Les choses s'empirent au Québec, mais... pour la communauté chrétienne, mais ce n'est pas grave. Bientôt, je m'en vais. Je vais être avec le Seigneur. Et malheureusement, on a tous ce réflexe-là. Mais ce qui est merveilleux, le Seigneur nous a mis à cœur, dans cette situation-là, de faire quelque chose. Et on a écrit. Et peut-être que ça fera une différence, que notre petit texte pourra... aider aider le gouvernement à établir une loi de la laïcité qui n'est pas injuste envers les gens religieux et les chrétiens. Donc ça, c'est un petit exemple. Je pourrais vous envoyer ce texte si cela vous intéresse. Le tournoi de soccer. On a fait un tournoi de soccer cette semaine. Merci à Andrew et à son équipe. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, combien de tournois de soccer pensez-vous qu'on a fait depuis qu'on a commencé ce projet-là dans le quartier ici? Qui penserait que ça serait 4? En fait, on en a fait 8 déjà. 8! Ça m'a surpris, mais je les ai comptés. Et je pense que c'est une belle chose qu'on fait. La coop l'apprécie beaucoup. Encourager les jeunes à faire du sport, mais c'est aussi montrer la présence de Christ. Et le fait de le répéter année après année, il y a quelque chose là aussi où on établit des racines, où on développe un témoignage de plus en plus crédible. C'est aussi ce que tu fais dans ton travail. Donc, je vais essayer de le dire d'une manière qui fait justice à notre Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu en mouvement. Et quand il te dit de quitter X pour aller à Y, il faut que tu y ailles. Il faut être prêt à déménager. Il faut être prêt à partir. Mais ce que le Seigneur te demande ici, c'est là où il te place maintenant, Ne passe pas ton temps à rêver à meilleur. Ne passe pas ton temps à espérer de partir. Donne-toi à fond. Et puis, après 70 ans, ça peut être moins, ça peut être plus. Ouais. quand il te dit « c'est le moment pour toi de passer à d'autres choses », il va le rendre clair. Ça va venir de son désir à lui. Pas de ton rêve à toi d'avoir meilleur. Ta vie est difficile maintenant. Ce que le Seigneur veut, c'est te donner la force pour vivre dans sa joie et investir pour le long terme. C'est la même chose pour l'Oasis. En tant qu'Église, à un moment donné, on a déménagé ici. On a senti que Dieu nous demandait de déménager à Cloverdale. Et on est venu avec joie. Et ça peut nous arriver de dire, « Ah, ça devient long. c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours le même quartier, c'est toujours les mêmes problèmes. » Le Seigneur nous dit, « Jusqu'à temps que je vous donne le feu vert pour déménager. » Et ce jour viendra sans doute qu'il veut nous amener à un autre local, peut-être dans le même quartier, ou peut-être changer de quartier. Dieu est libre de nous appeler où il veut. Mais en attendant, continuons à persévérer dans la patience, la persévérance. Et toi aussi, individuellement, c'est le même message. Donc, pour conclure, voici comment l'apôtre Pierre disait un peu ce même message pour la personne chrétienne. Il dit, « Bien-aimé, je vous encourage, en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir de votre nature propre, des désirs, pardon, de votre chair ou de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-chrétiens, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière de vivre et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Pensez à Roxane qui a été fidèle jusqu'à la dernière minute dans son travail. Et pensez dans votre travail, les relations peut-être frustrantes, il y a peut-être un appel là à persévérer dans la justice. Amen. Je vous rappelle le verset clé. Je vous invite à le reméditer. Pourquoi pas à l'apprendre par cœur. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Le Seigneur vous a sauvés pour faire de vous des exilés temporaires dans ce monde. Il vous demande de ne pas vous attacher, mais de devenir des témoins crédibles en investissant dans un exil à long terme. Donc, je voudrais vous parler maintenant du fait que le Sauveur nous invite à sa table. Et je lisais récemment que on appelait Jésus, Jésus de Nazareth. Jésus était un homme très lié à sa famille. D'ailleurs, les gens le voyaient comme le fils de Marie, le fils de Joseph, le frère d'un tel et d'une telle. À Nazareth, il a planté ses racines. Il est devenu maçon-charpentier. Et pendant 30 ans, il a vécu comme ça. Et quand il a commencé son ministère, c'était dans cette région, dans cette région natale de la Galilée. Donc, Jésus aussi, il sait c'est quoi planter des racines dans un lieu où tu es comme limité par le fait que tu es dans un lieu et pas ailleurs. Et c'est celui-là, c'est ce Sauveur qui est devenu notre Seigneur. Et si toi, tu as besoin de force et de persévérance pour ta vie chrétienne là où tu es, eh bien, c'est ce Jésus qui veut te donner sa force. Viens à sa table aujourd'hui. Viens à sa table pour réentendre à nouveau ces mots d'encouragement. Je veux vivre en toi. Je te pardonne tes péchés. Je veux te donner tout ce dont tu as besoin pour être un témoin heureux là où tu es. Y a-tu quelqu'un ce matin qui a besoin de cet encouragement? Y a-tu quelqu'un qui sent qu'il a besoin de cet encouragement? J'entends des amen. Qui veut lever la main? Oui, restez là où vous êtes. Restez. Soyez des témoins. Et essayez de voir la frustration ou la peur que vous avez comme une opportunité pour inviter Christ à venir avec vous dans cette situation et devenir un témoin crédible. Je vous invite à prier avec moi, puis après ça, je vais demander à Mélodie et je ne sais pas si je peux demander à Toutou de venir aussi en avant pour aider pour la soirée. Merci beaucoup. Prions. Et en fait, oui, on va aussi prendre 2 minutes pour saluer notre voisin au nom du Seigneur. Mais avant, prions, puis après ça, prenez quelques minutes pour saluer vos voisins au nom du Seigneur. Oui, Père, merci pour ce bel appel que tu nous donnes, et c'est un peu compliqué. Tu nous demandes à être des exilés sur cette terre, pas nous attacher, puis en même temps, tu nous dis planifier pour le long terme. Planifier pour le long terme pour devenir des témoins crédibles. Pas juste des commandos qui arrivent, qui débarquent, qui chantent des Alléluia puis qui partent. Non. Merci pour ces enseignements qui nous font réfléchir. Dirige-nous. Maintenant, prépare nos cœurs pour recevoir le pain et la coupe. Toi, Jésus, qui est mort pour nous. Toi qui nous dis, à travers l'apôtre, si nous confessons nos péchés, Dieu le Père est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés grâce à la croix de Christ et son sang qui a coulé. Mais Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Oh, merci pour ton pardon, Seigneur. Merci de faire de nous tes serviteurs purifiés et disponibles. Au nom de Christ. Amen.